Ésaïe 55. Le thème de ce culte des moissons, qui est un culte de reconnaissance, a pour thème la parole. Merci pour la parole. Et il y a en effet pour la parole, pour la Bible, un tas de sujets de reconnaissance. On peut dire merci pour ces copistes qui ont fait un travail remarquable. On les appelle pour l'Ancien Testament les massorètes. Et ils ont fait un sans faute pendant à peu près 10 siècles. On peut dire merci pour l'impression de la Bible depuis Gutenberg jusque maintenant. On peut dire merci pour les traductions avec Luther qui traduit pour la première fois la Bible en langue vulgaire, en allemand. Et après, toutes les autres traductions qui ont suivi, on peut dire merci pour l'association Wycliffe qui traduit la Bible pour des peuplades qui comptent quelques centaines d'individus seulement. On peut dire merci à Dieu pour sa diffusion, la diffusion de la parole à travers le monde, pour ses nombreuses versions en français, littérales, courantes, littéraires, paraphrasées, etc. On peut dire merci au Seigneur pour toutes les applications pour les smartphones avec la Bible dessus. On peut dire merci au Seigneur pour topchrétien.com qui diffuse la parole par Internet. Et chaque matin, Yvonne reçoit un petit passage biblique de la part de Marie-Jeanne. On peut remercier le Seigneur pour tout cela. On peut s'émerveiller de la Bible, de ce livre sous ses différents supports. Merci pour la parole. Mais le prophète Ésaïe, dans son chapitre 55, a choisi de remercier Dieu, pas tellement pour la diffusion de la parole, la traduction de la parole, les versions de la Bible, mais pour ses effets. Merci pour la parole dans tous ses effets. Et on l'a lu, vous l'avez entendu, ce verset, « Elle ne reviendra jamais à moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé », dit Dieu pour sa parole. Et on pourrait traduire « Elle ne reviendra jamais vers moi sans effet ». Et ça nous fait penser à ce texte d'Hébreu 4, verset 12, qui dit que la parole est efficace. La parole a de l'effet. La parole fait de l'effet. Et Ésaïe parle d'un de ses effets en prenant l'image de la pluie qui arrose le sol ou même de la neige qui tombe sur les sommets. Et en Israël, il y a toujours un mont qui culmine à 2814 mètres qui s'appelle le mont Hermon et qui reçoit de la neige. Et aujourd'hui, c'est une station de ski en Israël. Alors c'est au nord d'Israël, aux frontières du Liban et de la Syrie, le mont Hermon. Et cette neige qui tombe sur les sommets, cette pluie qui tombe en bas nous rappelle un petit peu les derniers jours dans notre belle région des Pyrénées. Il pleut en bas, il neige en haut, enfin on espère. Alors il commence à faire un peu froid et humide et j'entends déjà des gens qui se plaignent. Mais nous avons besoin de cette eau. De la neige qui, quand elle va fondre, va irriguer les plaines, de cette pluie qui fait pousser, etc. Nous avons besoin de l'eau, et la végétation en particulier dans les pays secs comme Israël a besoin de cette eau de pluie ou de cette eau qui vient de la fonte des neiges, et elle en a besoin tout simplement pour vivre. Et le texte nous parle de la fécondation de la terre, de la germination, de la production de vie, parce que l'eau, c'est la vie. Vous savez que quand on a fait des recherches sur Mars pour voir s'il y avait de la vie sur Mars, sur la planète Mars, on a cherché s'il y avait de l'eau. On n'en a pas trouvé. Mais l'eau, c'est la vie. Et pour Ésaïe, la parole, c'est la vie. La parole comme la pluie qui donne la vie, ou la neige. Vous voyez la petite image des précipitations à caractère hivernal. On disait ça en Belgique, on ne savait jamais si c'était de la pluie ou de la neige. Donc voilà, pluie et neige qui tombent. Et c'est là que porte la comparaison avec la parole qui arrose notre sol, fait germer quelque chose, fait naître quelque chose en nous, produit quelque chose. Alors quoi donc? C'est souvent une image que l'on donne, n'est-ce pas? Que la parole fait germer. Mais qu'est-ce que la parole fait naître vraiment en nous? Que diriez-vous à un enfant s'il vous demandait avec sa candeur « Et toi, qu'est-ce que produit la parole en toi ?» Et on aurait un peu de mal à répondre, n'est-ce pas? Et j'aurais du mal à répondre. Mais je pense que c'est normal parce que avec cette parole qui tombe sur nous comme la pluie ou la neige ou comme de l'eau, On est dans le domaine du mystérieux ou de l'intime, ou du très personnel, ou on va même dire du spirituel. On est dans les choses de l'esprit. Comme la parole le dit dans Romains, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Rend témoignage à mon esprit. Et on est là d'esprit à esprit. Et d'une manière toute spirituelle, toute intérieure, je me sais enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu le dit à mon esprit. Mais je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas le quantifier, je ne peux pas le formater. Et il me semble que la parole agit de la même manière. Écrite dans l'esprit, on la reçoit dans l'esprit aussi et elle trouve un écho en nous spirituellement. Elle résonne en nous. Elle fait la différence en nous. Elle fait naître en nous quelque chose qui n'est pas fait de la main des hommes. Elle fait naître en nous quelque chose qui n'est pas tangible. Mais s'il fallait quand même les nommer, j'en reviendrais à ce que dit Paul, le trio magique de la vie spirituelle, la foi, l'espérance et l'amour. La parole vient faire germer comme ça en nous, de façon invisible, de façon très spirituelle, de façon très personnelle, la foi, l'espérance et l'amour. Pourquoi notre cœur répond au message de l'Évangile, qui est la parole ? Pourquoi Jésus, sa personne, qui est la parole faite chair, et son histoire nous touche ? Pourquoi la croix nous interpelle ? Pourquoi l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous amène à changer de vie ? On ne sait pas trop, mais c'est la parole qui produit quelque chose dans notre vie, qui trouve un écho. C'est l'œuvre de l'Esprit, et la parole, c'est l'Esprit. Et puis je pense à la parole faite chair, à Jésus, qui dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et puis il y a d'autres métaphores dans la Bible pour parler de la parole. Et vous avez vu à l'entrée que nous avons fait comme Luther en 1517, nous avons placardé sur les portes de l'église de Pau 4 thèses. Il nous en manque quelques-unes, on n'arrive pas à 95, mais on a fait un effort quand même, 4 thèses sur la Bible et sur les métaphores de la Bible. Vous avez aussi sur la table, qui contient plein de Bibles, des symboles qui ne sont pas des livres. Je vous les laisse deviner, regarder et essayer de les discerner. Mais quand on va parler de ces effets de la Bible sur chacun, sur nous, peut-être vous pouvez vous poser cette question. Est-ce qu'elle a cet effet sur moi ? La Bible, donc on a parlé de la Bible comme la pluie qui vient irriguer, donner la vie. Et puis il y a la Bible comme une lumière, on l'a chanté tout à l'heure. C'est ce psaume 119 qui a 167 versets et au milieu, il y a « Ta parole est comme une lampe à mes pieds qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » Et dans ce verset, dans ce psaume, on voit que c'est très individualisé, très intimiste même. C'est « tous mes pas, elle éclaire mon chemin. » Et on se voit peut-être avec une lampe de poche à vers les cimes, entre le réfectoire et la grange. Le soir, nuit totale, on y voit goutte. Et on a cette petite lampe de poche qui nous guide, qui nous donne la direction à suivre, mais pas comme une feuille de route, ni comme un plan de carrière, ni même comme un code de la route, mais comme une lumière que l'on suit volontairement parce qu'on sait que celui qui la porte nous mènera à bon port. Alors, de temps en temps, la parole lumière nous dit de ne pas aller là, ou de ne pas faire ceci ou cela, ou même de faire parfois demi-tour, de rebrousser chemin. Mais c'est simplement parce que cette direction-là est dangereuse pour soi et pour les autres. Oui, la Bible donne la direction, la parole donne la direction, mais c'est pour que l'on suive le vrai chemin de la vie. Et je pense à la parole faite chair, à Jésus, qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Je pense à la parole faite chair, à Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et puis, troisième métaphore, la parole comme une nourriture. Ézéchiel 3, verset 3, « Puis il me dit... » Ézéchiel, c'est un prophète. Il avait fort à faire, un peu comme Jérémie. Et il reçoit cette parole de la part de Dieu. C'est lui le fils d'homme, là. « Puis il me dit, Dieu lui dit, fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche il fut doux comme du miel. » Ézéchiel avale le rouleau. Il y en a qui avalent des couleuvres, Ézéchiel. Il avale le rouleau de la parole de Dieu. Alors c'est Ézéchiel, ça fourmille de paraboles. Mais c'est l'image de manger la parole, de la parole comme une nourriture. Alors il me semble que dans la suite d'Ézéchiel, si au début la parole est comme du miel, quand il s'agit de la transmettre à ce peuple qui est rude, qui est raide de la nuque, comme ils disent, qui est obstiné, etc., ça devient très amer pour Ézéchiel, pour Jérémie. Mais elle est comme du miel, elle est douce. Et cette image pour nous dire que la parole nourrit vraiment. Autre part, on nous parle de la parole comme du pain. Du pain, l'élément de base, le miel pour mettre sur le pain, pour donner des forces, de l'énergie. Et vous avez le pot de miel et le pain. Waouh ! Elle donne de l'énergie et elle a aussi de la consistance. Elle donne un socle, elle est cohérente. On pourrait la comparer à du pain complet. Et je pense à la parole faite chair. Je pense à Jésus. Quand il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. » Dernière métaphore, la parole comme une épée. Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Je l'ai cité tout à l'heure. « Elle est plus tranchante que toute épée, à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme, ainsi que de l'esprit et des jointures, ainsi que de la moelle. Elle juge des dispositions et des pensées du cœur. » La parole comme une épée, alors c'est un peu violent, c'est une arme, on n'aime pas trop les armes, mais j'aurais pu prendre aussi l'image du marteau ou du feu. Mais toutes ces images que nous n'aimons pas trop nous parlent de cette vérité qui tranche. Oui, la parole nous confronte à la vérité sur nous-mêmes, elle tranche, elle distingue. Elle pénètre dans l'âme et elle distingue entre les jointures et la moelle. Elle juge les pensées et les dispositions du cœur. Et elle nous dit la vérité sur nous-mêmes. Et ce n'est pas toujours fameux d'entendre la vérité sur soi. Mais comme on le disait dans le parcours vitalité, la vérité nous rend libre. Et ce n'est pas seulement le parcours vitalité qui le dit, c'est la Bible qui le dit. La vérité nous rend libre. La vérité, même si elle est parfois douloureuse, nous permet d'avancer. Et la parole de Dieu nous dit la vérité sur notre besoin de Dieu et notre besoin de repentance et notre besoin de changement. Et elle nous remue. Et elle conteste parfois. Et souvent, la parole nous interroge, nous questionne et nous pose des questions qui nous dérangent, mais qui nous permettent d'avancer. Et je pense à Jésus. La parole faite chair, qui interroge toujours, et pas seulement les pharisiens qui sont ses ennemis préférés, mais aussi ses propres disciples, ou même les malades. Il leur demande une question qui paraît un petit peu provocatrice à un malade. Et toi, veux-tu guérir ? Bien sûr que je veux guérir. Oui, mais veux-tu guérir ? Quel est ton besoin réel ? Que veux-tu que je fasse pour toi, dit-il à un autre malade. C'est évident. Mais Jésus pose des questions qui dérangent. Jésus, la parole faite chair, ne laisse personne tranquille. Alors oui, nous voulons remercier Dieu pour les effets de sa parole. La parole comme une épée qui nous confronte à la vérité. La parole comme la pluie et la neige qui viennent nous donner la vie. La parole comme de la nourriture qui vient nous sustenter, qui nous donne des forces. Là, et j'en ai oublié un, l'épée, la lumière qui nous guide sur notre sentier. Et on veut remercier Dieu pour sa parole dans tous ses effets sur nous. Mais il faudrait faire attention et se demander si c'est un effet magique. Si, parce que le texte, la parole de Dieu ne revient pas à moi sans effet, parfois est considéré comme un effet magique. Je m'explique. On pourrait par exemple se dire, on va distribuer, on va larguer des tracts par millions par hélicoptère sur la ville de Pau, avec des versets bibliques, comme un peu dans la guerre 14-18, un peu pour décourager l'ennemi. On largue, un grand largage, en se disant « la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet ». Et les plus radicaux d'entre nous se diront « on va larguer même des caisses de Bible ». Envoi massif, effet massif. On a bien compris qu'il ne s'agit pas de cela. Mais on a quand même parfois tendance à considérer la Bible un peu comme magique et qu'il suffirait, et on prend parfois Ésaïe 55 à témoin, elle ne revient jamais à Dieu sans effet. On ne sait jamais. Mais quand on regarde le texte d'Ésaïe 55, pour ne citer que lui, on voit bien que dans la première partie, il y a toute une série de verbes qui parlent de l'attitude de l'homme pour recevoir cette parole. Au verset 2, écoutez. Au verset 3, « Venez à moi !» Au verset 3 encore, « Tendez l'oreille !» Au verset 6, « Tournez-vous vers Dieu !» Au verset 6 encore, « Adressez-vous à Dieu !» Et au verset 7, ça c'est intéressant, au verset 7, c'est « Repentez-vous, revenez à Dieu !» Il y a toute une attitude d'accueil à avoir pour recevoir la parole et pour qu'elle ait ses effets en nous. Et le mot « accueillir » revient dans le Nouveau Testament. Quand Paul parle des Thessaloniciens, vous, il leur dit, vous avez accueilli la parole de Dieu, la parole comme ce qu'elle était véritablement, c'est-à-dire la parole de Dieu. Accueillir la parole de Dieu. Il y a une attitude d'accueil. Et cette attitude, et ce qui est dit dans Ésaïe 55, correspond bien au mode opératoire du Dieu d'amour, de notre Dieu d'amour, qui n'est pas question pour lui de défoncer la porte ou de s'imposer par magie contre la volonté de la personne ou du lecteur. Il attend l'ouverture de la porte. Il faut un accueil de la parole. C'est écouter, venir à lui, tendre l'oreille, se tourner vers lui, s'adresser à Dieu, revenir à lui. Mais quand on dit que la Bible n'est pas magique, cela ne veut pas dire qu'elle ne soit pas surnaturelle. Elle est surnaturelle. Si elle n'est pas magique dans son processus, elle est surnaturelle dans ses effets. Les effets sur celui ou celle qui l'accueille dépassent de loin tout ce que peuvent produire en vous un bon roman d'amour ou un essai philosophique. On n'explique pas, encore une fois, pourquoi la parole produit la vie, trouve un écho en nous, produit l'espérance ou la repentance. On ne peut pas l'organiser, la maîtriser, la contrôler, la théoriser. Ses effets restent surprenants parce qu'elle est parole de Dieu et que Dieu est esprit. Les effets de la parole sont spirituels et nous remercions Dieu pour cela. Merci Dieu pour ta parole dans tous ses effets parce qu'elle nous donne la vie. Et pour revenir à notre texte, elle nous introduit un autre effet, c'est celui de la fête. Un effet surnaturel, c'est la fête. Une fête universelle où même les arbres des champs qui ne sont pas connus pour leur exubérance vont applaudir. Ou même les collines qui ne sont pas souvent d'humeur joyeuse vont éclater de joie. Devant vos pas, même les broussailles et les orties seront de la partie. Vous imaginez quelle fête ? Des images d'une création tout en joie et nous avec. La Bible nous fait entrer dans la fête, dans des noces nouvelles. Déjà, nous en sentons l'ambiance. Et tout ça, c'est l'effet parole de Dieu. J'entends d'ici Jésus, la parole faite chair, nous dire à chacun d'entre nous et à nous tous ensemble, venez, car tout est prêt. Amen.